Ben, c'est super d'être avec vous. Merci Elodie, Olivier, Emmanuel et Mathieu de nous avoir invités. C'est vraiment une grande joie. C'est vrai que c'est toujours enrichissant, merveilleux de venir dans une assemblée, d'en avoir entendu parler. Il y a 5-6 ans, on va dire, on a un rêve, on a une vision, on a vu des dauphins. Et de voir la réalisation, c'est beau. C'est beau pour nos amis, mais c'est beau surtout pour la gloire de Dieu.
Amen.
C'est beau de voir que l'œuvre, que Dieu agit. C'est beau de voir que Dieu est à l'œuvre et qu'il est vivant. Il est vivant dans cette assemblée, il est vivant dans votre cœur, et il est vivant partout. Amen. On est d'accord avec ça? Super. Aujourd'hui, c'est un thème à la fois... Alors, si ça marche, faut que j'allume. Ah, ça marche. Ça va, c'est assez clair. La nécessité de pardonner. C'est un sujet à la fois important... Et qui n'est pas toujours facile. Mais si vous êtes appelés, et vous êtes appelés à être, et nous sommes filles et fils de Dieu, filles de Père, nous recevons son pardon, nous avons reçu sa grâce, nous avons reçu son amour, et nous sommes appelés avec lui, comme lui, à entrer dans le chemin du pardon et de pardonner aux autres. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais je vais essayer cet après-midi plutôt, de vous dire les raisons essentielles que nous avons de pardonner. La première raison, voilà, la première raison, et mon message pourrait s'arrêter là, c'est que c'est un commandement de Dieu. Matthieu disait, baptisez-vous, c'est dans la Bible. Pardonnez aux autres. C'est dans la Bible. Vous arrivez à lire? Ouais. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aimez nos ennemis afin d'être fils et filles de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Waouh. C'est très fort. Donc on est là devant, ouais. Mais je sais que c'est pas si facile que cela. En tout cas pour moi, on va dire qu'un mécréant, il a fallu d'autres arguments que cela parce que c'était difficile pour moi de pardonner. Et je vous expliquer pourquoi. D'abord parce que j'étais peut-être un serviteur impitoyable. Vous connaissez tous cette parabole en deux mots, hein, le serviteur, il va voir son maître. Il lui remet une grande quantité d'argent, il sort et il prend au cou ses fournisseurs, enfin ses créanciers, et dit rends-moi, donne-moi de l'argent. Et quand son maître apprend ça, il dit quoi? Je t'ai pardonné tant et toi tu n'es pas capable de rendre 100 francs alors que je t'en ai, enfin 100 euros, alors que moi je t'ai donné 1000 euros. Alors, petit exemple, j'ai été ce serviteur impitoyable, très concrètement, il y a. J'étais plus jeune, j'avais 28 ans et j'étais président d'une association qui logeait des étudiants à Besançon. Non, c'est une histoire vraie. Ça. Et comme association, c'était pas toujours très simple financièrement et on devait de l'argent à la mairie de Besançon. Bon, beaucoup d'argent. Et j'étais président et à l'époque, je faisais mes études bibliques en même temps et j'étais convoqué par la mairie alors que je devais passer mon examen grec. J'ai raté mon examen grec. Je vais un peu abandonner le grec après. Et j'ai dû être convoqué à la mairie de Besançon, toujours. Pour savoir pourquoi, monsieur, vous ne payez pas vos loyers. Et les étudiants n'avaient pas payé, on n'avait pas payé. Donc je vais devant le maire, et je n'étais pas fier de moi. Et le maire regarde, il avait 50-60 ans, il est mort maintenant, ils ont été. Allez, jeunes, les étudiants, on va appeler jeunes, allez, vous faites cadeau. Et il a effacé la dette des loyers. C'est énorme. Et franchement, j'étais là. Et je venais de me convertir. Et puis je sors, et je suis dans le hall de la mairie, et je tombe sur quelqu'un qui me devait de l'argent. Je vous promets, c'est ce n'est pas une blague, je ne voulais pas inventer pour vous. D'ailleurs, qui a été le patron du papa d'Emmanuel. Petite histoire. Et je vais le voir, ça. Et vous alors? Parce que c'était, oh, c'est lui qui m'avait payé, j'aurais pu peut-être payer le maire. Et j'étais humilié au fond d'avoir été pardonné. Et donc j'ai été. Et je lui ai dit, mais pour quand vous allez me payer? Et là, le Seigneur m'a repris immédiatement. Et là, j'étais le serviteur impitoyable, et c'est juste la parabole d'aujourd'hui, mais dans cette parabole, il dit à la fin, si on ne pardonne pas aux autres, on sera directement. Alors justement, un mot sur les conséquences de ne pas pardonner dans sa vie. Pas dans l'ordre. Voilà, c'est pas dans l'ordre. Quand on ne pardonne pas. Avant, oui. Les fruits des pardons. Il y a deux arguments encore pour pardonner. S'identifier à Christ. Vous connaissez tous cette dernière parole que Christ a donnée, a dit sur la croix. Pardonnez-leur, elles ne savent pas ce qu'ils font. Quand j'apprends à pardonner et quand je pardonne, je m'approche de Christ. Je deviens comme lui. J'entre dans son appel et je m'identifie à lui. En plaçant les blessures, ma souffrance, mes difficultés à la difficulté que j'ai des fois à pardonner, et ben je dépose tout cela à la croix. Et il prend mes blessures et il donne le pardon. Il m'a donné le pardon pour moi-même, il donne le pardon pour les autres. Si j'étais victime d'injustice, je peux parler avec Jésus. Il a été victime d'une injustice bien plus grande que la mienne. Aucune de nos injustices, quelle qu'elle soit, ici, n'ont été pire que celle que Jésus a vécue. Et il peut me comprendre. En acceptant de rentrer dans un chemin de pardon, je rentre dans un chemin où je rencontre Jésus. Et je m'identifie à lui. Je permets que Jésus rentre profondément en moi, qu'il pénètre au fond de mon cœur, là où je n'ai pas envie qu'il vienne, où je n'ai pas pu qu'il vienne. Oui. Je peux avec lui, moi qui est mort avec lui et ressuscité avec lui, m'écrier, pas de l'homme d'heure. Et puis, le fruit du pardon, le deuxième fruit, c'est s'identifier avec l'humanité. Personne qui ne pardonne pas est une personne qui juge, qui condamne, qui maudit, qui refuse de voir les autres. Une personne qui ne peut pas accepter les autres. Parce que j'ai été beaucoup pardonné, je peux pardonner. Parce que j'ai été beaucoup aimé, je peux aimer. Les hommes comme ils sont, les femmes comme ils sont, avec leurs défauts, y compris dans l'Église. C'est parce que j'étais pardonné que je peux pardonner. Et je peux m'identifier, et je peux aimer l'humanité brisée. Et non pas les juger. Y compris, comme on dit, les gens qui ne sont pas dans cette salle, et qui sont dehors. Nous sommes à quelle vie ils ont. Sachant combien la dette que Dieu a effacée dans ma vie est importante. Je peux effacer la dette que j'estime les autres. Que j'estime avoir sur les autres. Oui, le fait de pardonner m'empêche d'être légaliste et de juger. Et puis, le troisième point, c'est qu'un non-pardon, ma femme pourrait témoigner de cela, parce qu'elle avait reçu vraiment une guérison dans ce domaine, c'est comme un couteau qui est planté dans votre cœur. Vous savez, le mal qu'on vous a fait, vous pouvez penser que le temps, que la vie va effacer les choses. C'est pas vrai. Le couteau qu'on a planté, peut-être dans votre cœur, dans votre flanc, Jésus c'était dans son flanc, on l'a planté le couteau. Il lui est resté une marque, un trou, comme il a un trou dans ses mains. Si tant que vous n'avez pas enlevé ce couteau, n'est pas enlevé de votre cœur, il reste. Non seulement il reste, mais c'est un cancer dans votre vie, dans ma vie. Et il faut que ce couteau soit enlevé. Et vous savez, le Seigneur est. Il a reçu cette parole il y a quelque temps pour une personne. Vous vous dites, non, c'est pas possible. Le Seigneur va l'enlever avec une telle délicatesse, un tel amour, une telle précision. Il va tellement soigner votre blessure de l'âme et de votre corps, de votre âme, qu'il va vous restaurer profondément et qu'il va toucher. Comme je dis, Jésus est le plus grand médecin, c'est Matthieu, c'est le plus grand psychanalyste de tous les temps. Personne ne peut guérir l'âme comme Jésus. Et avec une telle profondeur, une telle précision. Il fait de la chirurgie au laser pour nous sentir. Avec une précision que lui peut faire, que lui seul peut faire. En allant dans le pardon, j'ouvre les portes à Dieu pour qu'il me restaure et qu'il me nettoie et qu'il me guérisse. Vous savez, le manque de pardon, c'est comme si on avait mis un rocher. Je pense à cette Samaritaine. Dieu lui dit, mais de ta vie va couler un fleuve d'eau vive. De votre vie va couler un fleuve d'eau vive. Et pour cela, il faut que le couteau soit enlevé. Et l'eau jaillira. Et la fontaine jaillira. Amen. Voilà. Donc on va avancer et je vais dans l'ordre. Alors un mot, parce qu'il faut le dire, et ça a été, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est important que vous le sachiez. Quelles sont les conséquences du non-pardon dans la vie? Alors, je ne vais pas vous réciter tout, parce que ça va être un peu long, mais je voudrais qu'on ait du temps pour prier les uns pour les autres. Mais nous sommes liés, tant que je n'ai pas pardonné à quelqu'un le mal qu'il m'a fait. Je suis lié à cette personne, spirituellement et affectivement. Non seulement je suis lié, mais je peux m'identifier à elle. Nous sommes des fois, nous avons tendance à faire exactement la même chose que ce qu'on reproche à l'autre. Et d'avoir de victimes, on passe à être bourreau. C'est tellement vrai avec les parents. Je ne veux pas être comme mon père. Et quand on se retrouve père, avec son fils, ou son fille, on se dit, mais je fais comme lui. Je fais comme mon père. Il faut briser cela. Il n'y a pas de malédiction. La parole nous dit que les malédictions familiales sont brisées. Mais pour cela, il faut pardon. Les conséquences du non-pardon, c'est d'être lié au brisement de l'autre. C'est d'être étouffé par l'amertume, dans le ressentiment, dans la colère. De nous, quand on voit la personne, d'avoir des mauvais sentiments. D'être, ne plus être dans la même salle. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, je ne pourrais plus venir dans l'église tant qu'il y a cette personne. Elle punit qui? La personne qui est dans l'église ou elle qui sort de l'église? Qui est puni? Qui se fait du mal? Elle. Elle se prive de la bénédiction. Elle croit punir l'autre, mais elle se punit elle-même. Non pardon, c'est d'être comme derrière un mur défensif. Un mur d'amertume, de colère. Un mur d'agression, de haine de soi, de haine de l'autre. Ce mur nous empêche de venir en relation avec qui que ce soit. Et non seulement ce pardon, ce non-pardon s'applique à une personne, mais peut s'appliquer à toutes les personnes. Tous les hommes sont pourris. Plus jamais je ne marierai. Je pourrais sortir des phrases comme ça. J'ai pas l'intention, je me suis fait avoir une fois, je ne recommencerai plus. Combien de familles, combien de femmes ou d'hommes, on peut dire des choses comme ça, y compris après une expérience conjugale ratée. Vaut mieux vivre seul. Je pourrais continuer hein, les phrases. Mais vous les entendez tous autour de vous. Dernier point, et ce n'est pas le moins important. Un non-pardon, c'est une oppression démoniaque et c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte à Satan. C'est une porte que j'ai laissée ouverte dans ma vie. En pardonnant, je ferme les portes. Amen. Et on a besoin de fermer les portes. Alors je pourrais continuer. Je vous ai mis toute la liste, mais je ne vais pas l'écrire parce que ça va être un peu long. Un cœur rancunier, une imagination faussée. Chaque fois qu'on voit la personne, il dit « Ah, mais on me veut encore. T'as vu dans ma barre, regardez aujourd'hui. T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu ?» On s'imagine des choses. Envie et convoitise. Comment elle a réussi? Après ce qu'elle m'a fait? T'as vu le succès qu'elle a? Le rejet, l'abandon, la vengeance, la calomnie, l'orgueil, sa propre justice. J'ai été très fort dans ça. Et la dureté du cœur. Voilà toutes les conséquences du non-pardon. Mais, je sais que c'est pas si simple que ça. Et que pardonner, c'est compliqué. Et moi, personnellement, dans ma vie, pardonner a été compliqué. Pour ça, je vous en parle. Je ne pourrais pas vous parler de quelque chose qui était facile. Ça serait trop facile. Et donc, ça m'a aidé. Donc, je vous partage un peu les choses. Tout d'abord, en préambule, et c'était un enseignement que j'ai entendu il y a une quinzaine d'années, pardonner, c'est un verbe et non un sentiment. Comme le verbe aimer, c'est un verbe et non un sentiment. Ça veut dire que pardonner est un acte. Et même si je ne ressens pas les choses, ou si je ne suis pas capable, c'est un acte que je prends, une autorité que je prends. Dieu ne vous demande pas aujourd'hui de ressentir le pardon, de ne plus ressentir quelque chose, mais d'engager une démarche de pardon. C'est très différent. Le pardon implique, et ça c'est très important, en premier, que je sois conscient du mal qu'on m'a fait. Trop souvent, y compris dans le travail pastoral, j'entends les gens qui commencent à dire « Mes parents sont formidables !» Des fois, je les connais. Les parents, mais ça pourrait être autre chose. Et c'est prêt en particulier parmi les chrétiens. On pardonne des fois trop vite. Ça ne sert à rien de pardonner si vous n'êtes pas conscient du mal que vous avez eu. La phrase, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était pas grave, c'est pas leur faute. C'est pas du pardon. C'est du déni. C'est des excuses. Ça ne sert à rien. Et nous les chrétiens, trop vite, on pousse les gens. Avant que les gens ressentent les choses, qu'ils soient conscients de la souffrance, on leur dit « Faut que tu pardonnes, hein ! Faut que tu pardonnes !» Et la personne, déjà, faut que, elle ne sait même pas de quoi elle a mal. Elle a besoin de savoir de quoi elle a mal. Vous prenez dans la rue, il y a un 36 tonnes qui vous écrase le pied. Il n'a pas fait exprès. Vous dites « C'est pas de sa faute, c'est pas grave. Vous avez très mal, vous avez le pied écrasé. » La réalité, c'est qu'il faut d'abord commencer par aller à l'hôpital et faire réparer ce pied. Après, il y aura peut-être... Mais la première réalité, c'est d'être conscient de ce qu'on a vécu. Et c'est pas toujours facile pour certains. Et donc, c'est dommage. Si vous blanchissez les erreurs d'autrui en les niant, vous ne pourrez pas lui pardonner. Un pardon, c'est d'être conscient du mal qu'on a fait, conscient de la souffrance que j'endure, et être capable de pardonner. C'est beaucoup plus dur. Pardonner en disant c'est pas grave, c'est pas ça. Ça m'a fait très mal ce que tu as fait. Ce que tu as dit, ton comportement m'a brisé le cœur. Et c'est un cœur brisé qui arrive à te pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prendre le temps. Laisser au Seigneur l'accès. Vous savez, et ça aussi c'était quelque chose qui, quand j'étais jeune converti, Dieu est contre la souffrance. Et je ne veux pas souffrir. Alors j'ai mieux compris les choses. La souffrance, c'est comme... Mathieu est dans la santé, puis il y a d'autres qui sont médecins. C'est comme la fièvre. C'est une expression d'un mal. C'est pas parce que vous ne sentez plus de souffrance que vous n'avez pas eu le mal. C'est pas la souffrance le problème. C'est le mal qui vous a été fait. Le problème, c'est pas la souffrance, c'est le coup de couteau. Et la souffrance a été réalisée que j'ai eu un coup de couteau. Si vous, maintenant, on vous donne les coups de couteau, vous ne sentez plus rien, il faut vraiment vous aider. Et ça arrive. C'est la situation. Et on avait le jour à l'église le témoignage des jeunes femmes qui sont kidnappées pour être prostituées. Et avant de les mettre dans la rue, pour qu'elles ne ressentent plus rien, elles sont violentées, violées pendant des semaines ou des semaines, afin qu'il n'y ait plus aucun élément de souffrance. Parce que la personne a totalement été détruite intérieurement. Après, troisième point, à quel point je suis prêt à pardonner? Là non plus, il faut être honnête. Ne soyez pas des gentils chrétiens. Soyez honnête. Par rapport au mal qui a pu être fait. En disant, je peux pardonner, mais je ne le ressens pas. Et je vais l'écrire, je vais lui dire, ok, je pardonne. Mais ça va être compliqué. Mais c'est important de commencer un chemin. Et si vous ne pouvez pas aujourd'hui faire quoi que ce soit, ne faites rien. mais ne le faites pas par obligation. C'est un équilibre. N'attendez pas non plus, c'est comme pour le baptême, n'attendez pas 20 ans ou 25 ans. Mais ne le faites pas comme ça. Mais faites-le parce que vous êtes conscient que c'est le chemin de restauration et de guérison pour vous. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et que si vous n'êtes pas dans une voie de pardon, les eaux vivent et votre cœur restera toujours dans l'amertume. Et puis après, donnez la méthode. Hein. Comment pardonner? Il faut le manifester. Tout d'abord à la croix, à Jésus. Il a pris mes blessures, il a pris mes meurtrissures, il a pris le mal qu'on m'a fait. Je dépose ce mal depuis la croix. Et je le dépose. Je lui donne le mal, il me donne le bien. Je lui donne mes blessures, il me donne sa guérison. C'est ça la puissance de la croix. C'est une puissance incroyable. C'est la chose la plus incroyable qui est arrivée sur l'humanité. Jésus, Fils de Dieu, innocent parmi les innocents, mort injustement, trahi par les siens, rejeté par tout le monde, cloué sur cette croix, et qui pardonne, et qui nous pardonne. La parole nous dit, afin que je sois avec Christ, que je meure avec lui, afin que je ressuscite avec lui, que je participe à ses souffrances pour participer à sa résurrection. Que je donne ma blessure, ma difficulté, afin que je sois restauré. Oui, nous sommes appelés à aller à Dieu, à Jésus, pour apporter à la fois le mal qu'on a fait et l'offenseur. Et laisser Dieu faire sa justice. Ne plus faire ma justice moi-même, mais laisser Dieu faire la justice dans ma vie. Et j'ai pour remarquer, là je pourrais témoigner, combien des fois, alors que moi je voulais faire ma justice, j'ai vu Dieu agir. Et tout contraire. C'est la seule que Jésus est Dieu, c'est ça, c'est vrai. Pas de blague. Et ne croyez pas qu'on peut toucher à un enfant, à un cheveu d'un enfant de Dieu, Élisabeth, sans que Jésus soit là. Vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Et Jésus, c'est la grâce. Malheur à celui qui fait du mal à un enfant. Il vaudrait mieux qu'il y ait une meule de feu, une meule de pierre autour du cou. Malheur à celui qui fait mal à un enfant. Puis, dernier point. Quoi ? Vous avez le temps ? Ouais. Pardonner ne nécessite pas de renoncer à la sagesse si elle est à la limite nécessaire. Prenons l'assemblée, n'importe où. Il y a quelqu'un que je connais, ou quelqu'un, par exemple, ça peut être mon père, ma mère, hein, quelqu'un de la famille, à qui les relations étaient difficiles. C'est parce que je lui pardonne que je dois subir le lendemain, et les gens qui suivent, la même chose de lui. Je dois pouvoir déposer des limites. Et si les limites disent que je ne peux plus le voir, parce que c'est trop, la relation est trop difficile et trop conflictuelle, c'est un droit. Pardonner ne veut pas dire que vous devez accepter de vous faire taper sur la tête tous les jours. C'est très différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est légitime pour un chrétien de dire, je suis désolé, vraiment, mais on va arrêter les relations, on va se voir moins souvent. Parce que c'est, chaque fois que je viens, tu me fais descendre. Tu m'agonies, tu me dis des paroles blessantes, tu me détruis, tu me dis des choses épouvantables. Je ne peux pas supporter ça. Et c'est vrai aussi. Il faut donc savoir mettre des limites. Plus ou moins importante, selon le cas, et dans notre famille, on a su faire, nos beaux-parents, nos parents, mettre des limites. Parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Et c'est des choses qui sont des fois nécessaires. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. Mais pardonner, c'est que je ne garde pas le mal en moi. Le vrai intérêt du pardon, il est vraiment égoïste. Okay. C'est pour moi que je pardonne d'autres. Parce que je ne veux pas garder cette saleté en moi. Parce que je ne veux pas garder ce couteau en moi et que je veux être libre. Et que je veux me débarrasser. C'est déjà ça, le pardon. Alors, je comprends que vous avez peur d'être vulnérable en disant, mais si je pardonne aux autres, je vais accepter qu'ils fassent n'importe quoi. Et je comprends. Mais, vraiment, ce que je veux te dire, c'est que en confiant ta blessure à Dieu, tu laisses Dieu entrer dans toi. Et Dieu te dit, mais laisse-moi t'occuper de toi. Laisse-moi faire la justice. Remets-moi ta destinée. Libère ton offenseur afin que ton cœur ne soit pas empoisonné plus longtemps. Lorsque tu feras cela, je prendrai ta blessure. Le poison qui contient ton cœur meurtri coulera en moi. Il sera anéanti. Je fortifierai ton cœur. Je le guérirai. Je serai ton soutien, ton défenseur. Vous savez, il y a un verset, c'est un verset qui m'a énormément touché et qui a été pour moi un énorme source de restauration. C'est dans Zacharie. Parce que, y compris en rentrant dans cette demande de pardon, il fallait que j'essaie de tirer le pleurage de Dieu. Je serai moi-même une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Jésus est ma muraille de feu. Jésus est ma muraille de feu. Si l'on pense qu'en pardonnant, vous allez devenir vulnérable. C'est pas vrai. Parce que Jésus va être vos murs, ne sont que des murs de briques. Jésus met une muraille autour de vous. Et vous qui avez été abusé, qui avez été en difficulté, etc., Jésus est votre muraille. Amen. Alors Isabelle avait un texte justement sur les murs, c'est-à-dire. Et puis après, on a le papier, on a le crayon, je suis fait ça après.
Je vais faire comme Jonathan, c'est ça? Je vais vous lire une histoire. D'abord, Jésus jette un coup d'œil par-dessus un mur et il voit un enfant caché à l'ombre de ce mur pour se protéger. Et le mur représente le refus de pardonner. Jésus demande « Je peux venir ?» L'enfant répond « Oui » d'un ton hésitant. Jésus saute le mur, s'y adosse et demande « Dis-moi ce qui s'est passé. » L'enfant lui raconte alors ce qu'on lui a fait subir. « Qu'as-tu ressenti lorsqu'on t'a fait cela » demande-t-il. Lorsque l'enfant regarde Jésus, il voit qu'il est là, qu'il a les larmes aux yeux, ce qui le fait éclater en sanglots à son tour. Sa colère et sa peur masquent une profonde souffrance. Moi aussi, j'ai connu la trahison, explique Jésus, qui raconte de quelle manière ses amis l'ont trahi et comment il a été condamné à mort. Mais mes blessures ne sont pas inutiles. Tu peux y enfouir tes propres blessures. Je veux les prendre dans les miennes. Mets-les dans les miennes. Et il montre la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, ainsi que son côté percé par la lance du soldat. Alors l'enfant vient dans les bras de Jésus et presse son cœur blessé contre les meurtrissures de Christ. Il dit « Comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as pardonné, je pardonne à celui qui m'a fait tant de mal. » Les ténèbres sortent alors de l'enfant et sont projetées sur Christ. À ce moment-là, l'enfant recule et remarque que le mur a disparu. Il ne reste plus que Jésus qui seul sépare l'enfant de celui qui l'a blessé. Jésus dit « Regarde à travers moi celui qui t'a blessé. Sache que je me tiens entre toi et ton offenseur. Je te rendrai capable de tenir ferme face à lui. Je te conduirai et je te guiderai pour que tu saches comment te comporter à son égard. Mais ton cœur ne sera plus broyé par ta blessure, car elle a été remise. Je t'ai invité à partager mes souffrances. Pour ta sécurité et ta paix, la seule base sur laquelle tu puisses vraiment compter est ma fidélité envers toi. Personne ne peut te prendre ta vie, car elle est cachée en moi. Chaque fois que tu viendras à moi avec ton péché et celui d'un autre, je te libérerai fidèlement. Oui, chaque fois. Je suis devenu ton véritable mur protecteur et ton défenseur contre le mal. Il ne dominera plus sur toi.
Amen. Alors, on va prendre un temps de ministère avec les responsables de l'Église. Alors, je vous propose quelque chose un peu... peut-être que vous l'avez déjà fait, je ne sais rien. Pas facile de dire tout ça. Moi, en tout cas, compris pour moi, par rapport à des blessures d'enfance et des choses difficiles que, et par rapport à une personne, il a fallu que j'écrive. Le fait d'écrire sur un papier, ça m'a mis à distance. Alors, je vous propose de prendre une minute, et puis de peut-être mettre simplement un mot, un nom, plus, puis peut-être que vous retirez chez vous. Mais d'écrire, voilà, je lui pardonne. peut-être pas 50 choses. Personne ne va les lire. Nous, on fait des séminaires. Et quand à la fin des séminaires, toutes ces couvertures, elles brûlent. Et on fait un feu de choix et on chante. Yes! Mais là, on ne va pas les brûler. Vous n'avez pas encore vraiment acheté le bâtiment, donc on va faire attention. Mais voilà. Et symboliquement, voilà. Et d'écrire sur un bout de papier. Allez, c'est ce nom que j'ai dans la tête depuis tant d'années que je n'ai jamais voulu mettre. Aujourd'hui, je le mets. Je suis sûr qu'on en a tout seul. Un nombre de personnes. Et puis, bah, ce que je vous propose, c'est qu'une manière symbolique, parce que voilà, c'est important, la démarche. Bah, on va mettre ça là, et vous venez, vous posez votre papier, et puis après, Mathieu, Olivier, Lydie, puis les autres, bah, je vais laisser Mathieu, je serai dans les salles, bah, ils vont plier pour vous. Ouais, et, mais en tout cas, voilà, Dieu vous aime. Dieu ne veut pas vous laisser au milieu du chemin. Et le Seigneur, vraiment, ce soir, et j'ai vraiment la conviction profonde, mais particulièrement pour beaucoup de personnes ici, que vous êtes venus aujourd'hui, ce soir, ici, ce n'est pas un hasard. Et vous êtes rentrés et vous êtes demandé, mais pourquoi je viens ici ce soir? Pourquoi je viens dans... Et Dieu avait un rendez-vous avec toi ce soir. Il avait un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est qu'il y a des choses dans ta vie que tu traînes depuis très longtemps. Et ce soir, tout simplement, Dieu va ôter ce couteau.